الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم هو الثامن من شهر جمادى الثاني عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 51 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 28 mars 2015. Aujourd'hui, nous entrons dans le 51e cours de ce livre béni, les chapitres dans la vie du messager de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, livre dans lequel on a pu voir à travers les derniers cours que l'auteur rahimahullah a commencé à citer les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les choses qui lui étaient propres et avec lesquelles dans lesquelles personne ne partageait avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a divisé ces choses en deux pour faciliter. Il a dit, premièrement, on dira les choses particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux autres parmi les prophètes. Les choses que lui avait en tant que prophète, que les autres prophètes, alayhim salat wa sallam ajma'in, n'avaient pas. Deuxièmement, il dit les choses particulières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens de sa communauté, les choses que lui avait et que les gens de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu après lui alayhi salatu wa sallam. On a vu certaines de ces choses et nous sommes toujours en train de lire l'explication de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala du hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cinq choses lui sont particulières. Le hadith que nous avons lu au début, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. On m'a donné cinq choses qu'on a donné à aucun prophète avant moi. نصرت بالرعب مسيرة شهر. On m'a secouru par la peur à une distance de un mois. On a déjà expliqué. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Et on a fait de la terre pour moi un lieu de prière et de purification. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وما أوتوريزي لي بوتان ولم تحل لأحد قبلي. Alors qu'ils n'ont pas été autorisés aux gens avant moi. وأعطيت الشفاعة. On m'a donné l'intercession. Et donc voici la cinquième chose dans laquelle nous commençons notre cours inshallah ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة فمعناه في الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فكان النبي ممن كان قبلنا لا يكلف من أداء الرسالة إلا ما يدعو به قومه إلى الله وأما محمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. في آي كثيرة من القرآن تدل على عموم رسالته إلى الثقلين فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم، فقام صلوات الله وسلامه عليه بما أمر وبلغ عن الله رسالته. ابن كثير رحمه الله تعالى explique donc le cinquième passage de ce hadith. Il dit: quant aux paroles du premier hadith cité dans ce chapitre, chaque prophète était envoyé exclusivement à son peuple, alors que j'ai été envoyé à tous les hommes. Elles ont le même sens que ces paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, selon le sens rapproché: nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue des siens pour leur exposer plus clairement le message. Et il n'est point de peuple qu'un messager n'est venu avertir. Par conséquent, les prophètes envoyés au peuple précédent étaient chargés de transmettre le message uniquement aux leurs, qu'ils appelaient à se soumettre à Allah. À l'inverse de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auquel Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse en ces termes: dis, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Il dit par ailleurs: afin de vous avertir ainsi que tous ceux auxquels il parviendra, c'est-à-dire le Coran. Mais ceux qui le rejettent parmi les nations seront voués au feu. Dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés: avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Et s'ils tournent le dos, tu n'es chargé que de transmettre le message. Allah connaît parfaitement ses serviteurs. Bien d'autres versets coraniques prouvent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé comme messager à tous les hommes et à tous les djinns. Allah le Très-Haut, lui, a en effet ordonné d'avertir l'ensemble de ses créatures, hommes comme djinns, arabes comme non-arabes, et il s'acquitta parfaitement de sa mission, transmettant le message qu'Allah lui avait confié. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, cite ce point particulier par lequel s'est distingué le prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres parmi ses frères, prophètes et messagers, qui est que chacun des messagers avant lui, des prophètes, a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala à son peuple. Nous n'avons envoyé aucun messager qui ne s'exprime dans la langue des siens. Dans la langue des siens. Le messager est envoyé aux gens de sa tribu, aux gens de son peuple. Il parle leur langue. Il est envoyé chez eux, il s'adresse à eux pour leur exposer plus clairement le message. Il n'est point de peuple qu'un messager n'est venu avertir. وَمَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَ فِيهَا نَذِيرٌ. C'est-à-dire que chaque peuple a reçu son messager. Chaque peuple a reçu son prêcheur, celui parmi les hommes qui était élu par Allah et qui avait la mission de transmettre le message à Allah à ce peuple. Donc chacun à son messager. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux autres, a la particularité qui est qu'il a été envoyé à l'ensemble des mondes. Comme Allah azza wa jalla a dit: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Il a été envoyé à tout le monde sallallahu alayhi wa sallam, même les djinns devaient le suivre sallallahu alayhi wa sallam. Il cite les preuves parmi lesquelles la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dit, lorsque vous voyez dit dans le Coran, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre un message. Dit à ces gens-là: ô toi le prophète, dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. L'autre verset: لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. En parlant du Coran et de sa révélation, Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire: afin de vous avertir ainsi que tous ceux auxquels il parviendra. Donc le Coran a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala pour atteindre tous les gens. Et tous ceux à qui est parvenu le Coran auront des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe que ces gens soient arabes ou non, peu importe que ces gens soient de telle et telle couleur. C'est ce qui particularise le prophète sallallahu alayhi wa sallam des autres. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Mais ceux qui le rejettent parmi les nations seront voués au feu. Ceux qui rejettent le message du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'exposent au châtiment d'Allah. Peu importe de quelle communauté ces gens sont issus. Tant qu'ils sont des gens, ils sont concernés par les ordres d'Allah qui sont dans le Coran. Dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Et s'ils tournent le dos, tu n'es chargé que de transmettre le message. Allah connaît parfaitement ses serviteurs. أقول للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن آمنوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Donc ces versets sont très clairs. On y voit que le prophète a été envoyé à l'ensemble des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Bien d'autres versets coraniques prouvent que Mohammed fut envoyé comme messager à tous les hommes et à tous les djinns, alayhi salatu wa sallam. Allah le Très-Haut lui a en effet ordonné d'avertir l'ensemble de ses créatures, hommes comme djinns, arabes comme non-arabes. Ensuite, il cite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est acquitté de la façon la plus complète de cette mission en transmettant le message d'Allah, تبارك وتعالى. قال رحمه الله ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم فما من نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: autre particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ses frères les prophètes, le fait qu'il fut le plus parfait d'entre eux et le plus éloquent. Il fut leur maître et le dernier d'entre eux, alayhi salatu wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus pieux, celui qui connaissait Allah mieux que quiconque. Et Allah Azza wa Jal a parfait ses comportements, sa façon d'être. Et en cela, il était au-dessus des autres parmi les messagers, qui eux aussi étaient quand même les meilleurs adorateurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si ce n'est que le prophète était meilleur que tous, sallallahu alayhi wa sallam. Il était le plus éloquent. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui en la langue la plus éloquente, qui est la langue arabe. Qu'il fut leur maître et le dernier d'entre eux. En effet, il n'est de prophète qui ne soit engagé, si Mohammed était suscité aux hommes de son vivant à croire en lui et à le soutenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoyait un messager ou un prophète, il prévenait ce dernier que s'il était vivant, quand Mohammed allait venir, il aurait l'obligation d'y croire et de se soumettre à sa législation et ses ordres. Alayhi salatu wassalam. Et tous les messagers qui ont été envoyés par Allah ont pris cet engagement. Ils se sont tous engagés avec Allah. Au cas où Mohammed vient pendant que je suis vivant, je le suivrai et lui obéirai. Alayhi salatu wassalam. En outre, chaque prophète reçut l'ordre de prendre ce même engagement de son peuple. Allah le Très-Haut dit, c'est le sens du verset, et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, quoi que je vous accorde comme livre et sagesse, si un messager vous vient pour confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et le soutenir. Il demanda, y consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition? Nous y consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Ce verset est très clair. Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'à chaque fois qu'il envoyait un messager, il prenait de ce dernier l'engagement de suivre le prophète qui allait venir après lui. Donc ils étaient tous engagés et ils avaient tous obéi dans ce sens que si le prophète viendrait après eux, ils devraient s'y soumettre, croire en lui. Et ici, on voit, y consentez-vous, aqrartum. Al-iqrar, dans la langue arabe, c'est le fait de consentir, d'accepter et de se soumettre, de mettre en pratique ce qui découle de cette acceptation. Allah Azza wa Jalla a dit à chaque prophète, aqrartum. أأقررتم نعم وأخذتم على ذلكم إسري et consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. قالوا أقررنا, ils répondirent tous nous y consentons. يقول الله تعالى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. Autrement dit, quoi que je vous accorde comme livre et sagesse, si ensuite un messager vous vient, vous devrez croire en lui et le soutenir. Ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir de ce verset. Si cet engagement concerne tous les messagers, il concerne avant tout Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque, étant le dernier d'entre eux, tous les messagers ont pris l'engagement de croire en lui et de le soutenir. Ceci constitue donc un autre privilège que nul partage avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال رحمه الله ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتابه تنقيح الفهوم. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance déjà circoncis avec le cordon ombilical déjà coupé, et ceci c'est daif. Et Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, a cité quelque peu les paroles des savants du hadith et leur jugement. Et cette histoire n'est pas authentique. Comme l'indique un hadith, ce hadith en question n'est pas authentique, rapporté à travers de nombreuses chaînes de narrateurs qui ne sont pourtant pas sans faiblesse. Ici, Ibn Kathir a cité que ce hadith est rapporté par de nombreuses chaînes de narrateurs, car Al-Hakim, rahimahullah, un des imams du hadith, a jugé ce hadith mutawatir. Et dans la science du hadith, mutawatir, c'est le hadith qui est rapporté par tellement un nombre tellement considérable, tellement grand de chaînes de transmission ou de narrateurs que son authenticité est incontestable. Et puis, Ibn Kathir, rahimahullah, ainsi qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ainsi que le Cheikh d'Ibn al-Qayyim, l'imam al-Muzzi, rahimahullah ta'ala, ont montré qu'en réalité, ce hadith est faible. Deuxième chose à retenir, ce n'est pas une particularité, car il arrive à des gens de naître déjà circoncis. Et ça peut arriver. Donc ce n'est pas une particularité, tant au point de vue de l'authenticité du hadith, qu'au point de vue de la réalité des faits. Néanmoins, certains savants de l'islam, à l'image d'Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, dans son livre intitulé « Tanqih al-Fuhum », affirment que d'autres prophètes ont partagé ce privilège avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, les miracles de chaque prophète ont cessé. Naam, c'est un miracle suivant. « Wa min dhalika anna mu'jizata kulli nabiyyin inqadat ma'ahu » ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما يشاء الله إلى بعد ما إلى ما يشاء الله نعم بعده إلى ما يشاء الله يشاء الله عز وجل وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. Par ailleurs, les prophètes ont partagé ce privilège. Là. Par ailleurs, les miracles de chaque prophète ont cessé avec leur mort, tandis que le miracle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demeure après sa disparition jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement. Chaque prophète est venu avec un miracle. Moussa alayhi salam est venu avec plusieurs miracles. Le plus connu, le bâton qui se transformait en serpent par la permission d'Allah. Isa alayhi salam est venu avec plusieurs. Un des plus connus, qu'il guérissait les lépreux. Alayhi salam. Et ainsi, chaque prophète vient avec un miracle. Et quand ce prophète s'en va et meurt, son miracle s'en va avec lui. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un miracle qui ne cesse d'exister et qui ne cessera de l'être jusqu'au jour dernier. Ce miracle, c'est le Coran, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce miracle est en effet le sublime Coran, inimitable dans ses termes comme dans ses enseignements. Aussi, Allah a mis au défi les hommes et les djinns de produire un texte identique au Coran, mais ils furent incapables de relever le défi. Et il en sera ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets du Coran, a défié le fils d'Adam, l'homme, l'humain. Il l'a pris au défi de faire une parole semblable. Et il y a plusieurs façons de défier qu'Allah Azza wa Jal a utilisé. Il leur a demandé de ramener un Coran semblable. Ensuite, il leur a demandé de ramener 10 sourates semblables. Ensuite, il leur a demandé de ramener une seule sourate semblable. Et ensuite, il leur a demandé de ramener au moins une parole semblable. Et bien sûr, vous savez qu'ils n'ont jamais pu le faire. Et ça montre que le Coran est la parole d'Allah. Car si eux disaient qu'en réalité c'était la parole d'un homme qu'on dictait au prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait qu'à, pour le contrecarrer, aller chercher un homme qui est plus éloquent que celui qui a dicté le Coran, pour dicter un autre livre afin que les gens le suivent et délaissent le Coran. Ils n'ont jamais pu le faire. Pourquoi ? Car le Coran n'était pas la parole d'un homme, c'était la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika, أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة وهذه من خصائصه. Autre privilège accordé au prophète صلى الله عليه وسلم, celui d'avoir été transporté de nuit jusqu'au سدرة المنتهى, le lotus de la limite, avant de revenir chez lui, et ce en une seule nuit. Ici, nous parlons du voyage nocturne qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir qu'Ibn Kathir rahimahullah va citer qu'il y a une éventualité que d'autres prophètes ont eu le voyage nocturne. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui a eu cette particularité d'être élevé le plus haut possible, ou bien qui a été plus haut que tous les autres. Si, comme dit Cheikh Abd al-Razzaq, s'il est avéré qu'ils l'ont fait, le voyage nocturne, alors la particularité ici est de dire que le prophète a été plus haut qu'eux. Si ils n'ont pas fait le voyage nocturne, la particularité est tout simplement de dire qu'il a fait le voyage nocturne, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma illa an yakuna fi qawlihi fi al-hadith حيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه أسكن فوالله ما ركبك خير منه. Cependant, le hadith indique, le hadith du voyage nocturne, le hadith indique qu'au moment où le prophète صلى الله عليه وسلم s'apprêtait à enfourcher la monture nommé Al-Buraq, Al-Buraq se montra rétive. Donc la monture a montré un peu comme si elle n'acceptait pas d'être montée. Jibril lui dit alors, dans le hadith, on voit Jibril qui lui dit: tiens-toi tranquille, car par Allah, nul homme de sa valeur ne t'a jamais monté. Pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir cite ce passage du hadith? Il va dire après que ce passage du hadith montre qu'il y a une probabilité que cette monture a déjà été montée. Sinon, pour quelle est l'utilité que Jibril dise au Buraq, calme-toi, car c'est le meilleur qui t'a monté. En quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. De même, il est dit dans le hadith, il attacha alors la monture à l'anneau utilisé par les prophètes. Vous voyez, encore un indice encore plus fort ici. Que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le Buraq, il attacha alors cette monture à l'anneau utilisé par les prophètes. Ibn Kathir va dire, or tout ceci prouve que d'autres prophètes ont été transportés de cette manière. Ensuite, Allahu a'lam, est-ce qu'il y a des hadiths ou non? Le Cheikh Abdul Razak a dit, quoi qu'il en soit, si ces faits sont avérés, s'il est affirmé que des prophètes ont eux aussi le voyage nocturne, alors la particularité du prophète, c'est qu'il a été plus haut que tous. Et s'ils n'ont pas eu de voyage nocturne, la particularité est tout simplement de dire qu'il a eu le voyage nocturne. Allahu ta'ala a'lam. Or, tout ceci prouve que d'autres prophètes ont été transportés de cette manière. Toutefois, nous savons que nul ne s'est approché du Seigneur comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, marque de l'honneur dont il jouit auprès de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rang du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au paradis est le plus élevé et le plus proche du trône, comme l'indique ce hadith. Puis, implorer Allah de m'accorder al-wasila. Ici, c'est le hadith qui est rapporté par Muslim et c'est le hadith de l'invocation qui doit être répété après l'appel à la prière. À la fin, le prophète alayhi sallam dit ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. Le prophète a.s. dit, puis implorez Allah de m'accorder al-wasila qui est un rang au paradis. لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ وَأَرْجُ أَنْ أَكُونَ أَنَاهُ. Il dit qu'il ne convient qu'à un seul de ses serviteurs et j'espère bien être celui-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on voit la particularité ici qu'a eu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر في كتب الأصول وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. Autre particularité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les membres de sa nation ne peuvent s'accorder sur un avis religieux erroné, c'est-à-dire que les membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, les croyants, ne peuvent être unanimes dans une erreur. C'est-à-dire que si toute la communauté suit un avis, de toute façon, s'ils sont unanimes, c'est qu'il n'y en a qu'un. Si toute la communauté a le même avis, la même croyance, la même opinion, ça ne peut pas être une erreur. Allah a fait miséricorde à la communauté musulmane de sorte à ce que si celle-ci être unanime dans un sujet, elle ne peut être dans l'erreur. Pourquoi ? En raison du rang de leur prophète. C'est pour cela que c'est une particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas donnée aux autres communautés, comme a dit Cheikh Abdul Razak al-Abbad. Or, au contraire, s'il s'accorde sur un avis, c'est que cet avis est forcément juste, comme l'établissent les savants de la science dite usul al-fiqh. On les appelle les fondamentalistes. Ce sont les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Or, ce privilège accordé aux musulmans et à aucune nation avant eux a pour origine le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. En outre, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sera le premier à être rejeté par la terre le jour de la résurrection. C'est-à-dire que quand Israfil, alayhi salam, l'ange, va souffler dans la trompe pour avertir le début de l'heure, les gens vont sortir de leur tombe. Le premier homme à sortir de la terre sera notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa min dhalika annahu alayhi salatu wa salam idha su'iqa an-nas yawm al-qiyamah yakunu huwa awwaluhum ifaqa كما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين فلطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. Par ailleurs, lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, il sera le premier à reprendre conscience, comme l'indique ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira, au sujet du juif. Donc ici on va parler d'une histoire où un juif, dans une discussion, a voulu jurer par Allah Azza wa Jal, mais en disant ce qui va suivre. Au sujet du juif, et cette histoire elle est authentique, qui, pour avoir dit non par celui qui a élu Moussa au-dessus de toute l'humanité, donc il a juré par Allah Azza wa Jal, mais il a dit dans ce serment qu'Allah a préféré Moussa à tout le monde, donc au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut giflé par un musulman. Un musulman n'a pas pu supporter que l'on dise que quelqu'un est meilleur que Mohammed, même si c'est un prophète qui a son rang, qui a sa place chez Allah Azza wa Jal. Les deux hommes portèrent alors leurs différends devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés se plaindre au prophète qui dit « Ne me considérez pas supérieur à Moussa ». Car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à reprendre conscience. Je trouverai alors Moussa accroché au pilier du trône. Mais je ne sais pas si Moussa aura repris conscience avant moi ou s'il fera partie de ceux qui seront épargnés. Il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce hadith. Premièrement, parmi la croyance des gens de la Sunna, dans les livres de Aqidah, on trouve, quand on parle des tafasils, des détails de la foi au jour dernier, tout ce qui adviendra après la mort. Parmi ces choses-là, l'ange qui soufflera dans la trompe, il soufflera plusieurs fois. Les savants ont divergé sur le nombre de fois. Certains disent 2, certains disent 3. Il y a même d'autres qui disent plus. Quoi qu'il en soit, la divergence la plus proche, c'est de dire soit 2 ou soit 3. Et pour affirmer cet événement, ils se sont basés sur deux versets du Coran, parmi lesquels celui qu'on retrouve dans Sourate Az-Zumar. Allah Azza wa Jalla a dit wa nufikha fi sur, et on soufflera dans la trompe, fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard, seront foudroyés ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, illa man sha'a Allah, sauf ceux qu'Allah a acceptés par sa volonté. ثم نفخ فيه أخرى, puis on y soufflera une seconde fois. فإذا هم قيام ينظرون, et les voici debout à regarder. Donc ici on parle de deux fois, et le but n'est pas de citer la divergence. On parle de deux fois. Donc Israfil va souffler dans la trompe, et comme Allah Azza wa Jalla a dit فصاعقا من في السماوات ومن في الأرض, seront foudroyés les gens des cieux et de la terre. Ils seront tous foudroyés. Ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Et dans le soufflet final, ils seront réveillés et ressuscités. Ils auront à comparaître devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tufaddiluni ala Moussa » « Ne me considérez pas meilleur que Moussa » Maintenant, je vous retourne à la question. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Moussa ou non? Tout le monde dit oui. Le prophète est meilleur que Moussa alayhi salam. Vous en êtes sûr? Personne ne doute? Alhamdulillah. Heureusement que vous ne doutez pas sur ça. Alors pourquoi le prophète ici sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne me considérez pas meilleur que Moussa » Ça c'est plus dur. Naam. Par modestie. On peut dire aussi par modestie, mais il y a quelque chose d'autre. Pour pas dévaloriser le rang de Moussa. Là. Par rapport au mérite que Moussa a eu. Là. Parce qu'Allah Azzajal a parlé directement à Moussa. Là. Khalas, je vous donne la réponse, inshallah. Al-Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah a dit dans ce passage, ce qui est voulu ici, c'est de ne pas utiliser le fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que les autres dans un conflit duquel va découler la haine, la bagarre, la violence, des choses inutiles et mauvaises. À ce moment-là, on ne doit pas dire dans ce contexte-là que le prophète alayhi salam est meilleur. Il dit, on ne parle pas de la aqida qu'on a et auquel on est attaché, la conviction que Mohammed est meilleur que Moussa. Il n'y a aucun doute sur ça. Mais ici, le prophète alayhi salam reçoit des gens qui ont un conflit. Il y a eu un conflit, une dispute. Dans ce contexte-là, il leur dit « Ne me considérez pas meilleur à Moussa, meilleur que Moussa. N'utilisez pas cette chose-là pour un conflit. » Comprenez ? Et aussi, à la fin, pour nous montrer effectivement le rang de Moussa alayhi salam chez Allah subhanahu wa ta'ala. On voit également dans ce hadith que des gens seront épargnés. Mais je ne sais pas si Moussa aura repris conscience avant moi ou s'il fera partie de ceux qui seront épargnés. Ce qu'on retrouve dans le verset « Illa man sha Allah » Sauf ceux qu'Allah a voulu. C'est-à-dire, sauf ceux qu'Allah a voulu épargner. C'est-à-dire que quand Israfil va souffler et que des gens seront foudroyés, il existe des gens, et seul Allah sait qui ils sont, qui seront épargnés. Ils sont cités dans les livres de Aqidah. Et on ne sait pas c'est qui. Mais il y aura des gens qui sont épargnés. Ce jour-là, quand Israfil va ressouffler pour que les gens se lèvent, le prophète est le premier à se lever, sallallahu alayhi wa sallam. Il verra déjà Moussa et dit « Je ne sais pas s'il s'est levé avant moi ou si tout simplement il a été épargné par Allah, subhanahu wa ta'ala. » Wa fi riwaya, « Am juwiza bi sa'qati tur » وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر ودليلهم في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المدني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان ممن صعق أم جوز بصعقته الأولى. Selon une autre version, il dit, toujours dans le hadith du foudroiement, où il sera ainsi récompensé pour avoir été sur le mont. C'est-à-dire que on ajoute ce point-là, que quand le prophète va se réveiller, alayhi salatu wassalam, il dit « Je ne sais pas s'il s'est réveillé avant moi, ou si du fait qu'il a été foudroyé le jour où il a demandé à Allah Azza wa Jal de le voir. » Vous vous souvenez, dans le Coran, Allah nous enseigne que Moussa alayhi salam Qala Rabbi arini anzur ilayk. Il lui dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi que je puisse te voir. Qala lan tarani. Allah lui dit, tu ne pourras pas me voir. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Mais regarde cette montagne, si elle reste en place, tu me verras. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'est montré, la montagne s'est effondrée, elle est partie en miettes. Wa kharra Musa sa'iqa. Allah Azza wa Jalla a dit, et Moussa est tombé foudroyé. Sa'iqa, il est tombé foudroyé. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, je ne sais pas si Moussa s'est levé avant moi ou du fait qu'il a déjà été foudroyé sur terre, il n'a pas été foudroyé ici. Certains de ceux qui ont commencé ce hadith ont expliqué que l'expression « reprendre conscience » signifie « se lever de la tombe ». Donc, regardez, ici c'est une erreur qui va être citée, dans laquelle est tombé un des narrateurs du hadith, vous allez comprendre. Donc certains ont dit que Al-Ifaqa, cette expression citée en arabe, qui en réalité c'est le fait de se lever après le foudroiement, de reprendre conscience. Certains ont dit en vérité, ce qui est voulu, c'est se lever de la tombe. Pourquoi ? Ils se fondent pour cela sur certaines versions rapportées par Al-Bukhari, d'après Yahya ibn al-Madini, ibn Amr ibn al-Madini, d'après Abu Sa'id al-Khudri, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me considérez pas meilleur que les autres prophètes, car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je serai le premier à être rejeté par la terre. Je trouverai alors Moussa se tenant au pilier du trône, mais je ne sais pas si Moussa aura également été foudroyé ou s'il y aura échappé pour avoir été foudroyé avant cela sur le mont Sinaï. Certains savants ont pris ce hadith et l'ont uni au hadith cité tantôt, le premier, pour dire que dans le premier hadith, on nous dit qu'il sera le premier, sallallahu alayhi wa sallam, à reprendre conscience. Et ils disent en réalité, premier à reprendre conscience, c'est-à-dire le premier à sortir de la terre. Car ce deuxième hadith l'explique. Dans ce deuxième hadith, qu'est-ce qu'on trouve ? Je serai le premier à être rejeté par la terre. Si ce n'est que Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, un savant, c'est l'élève de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a cité qu'en réalité, c'est une erreur du narrateur, du rawi, celui qui rapporte le hadith. Il a mélangé deux hadiths. Celui où on cite que le prophète, alayhi salatu wasalam, dit qu'il sera le premier à sortir de la terre, et celui où il dit qu'il sera le premier à reprendre conscience. Le narrateur s'est emmêlé dans ces deux hadiths, puis il a pris une phrase du premier et l'a mise dans le deuxième. Donc ce qu'on trouve ici, je serai le premier à être rejeté par la terre, c'est la phrase d'un autre hadith. En réalité, Ibn Kathir va citer l'autre version qui le confirme, en réalité, je serai le premier à reprendre conscience. Donc c'est ça qui est à retenir. Et cet avis, qui a été cité par l'élève d'Ibn Kathir, est confirmé par Ibn Kathir lui-même et par le shaykh d'Ibn Kathir, Al-Muzzi, rahimahullah ta'ala, et Ibn Al-Qayyim aussi, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants du hadith. Néanmoins, cette version n'est pas sans problème. وهذا اللفظ مشكل والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى ابن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فذكر قصة اليهودي إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى وذكر الحديث فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت وهذا حقيقة الإفاقة ثم من تأمل قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوز بصعقة الطور جزم بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. Néanmoins, cette version n'est pas sans poser problème. D'ailleurs, la version retenue par les savants de l'islam est celle que rapporte Al-Bukhari, il cite la chaîne des narrateurs, jusqu'à arriver, qui relate l'histoire du juif qui a été giflé jusqu'aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne me considérez pas meilleur que Moussa, car lorsque les gens seront foudroyés le jour de la résurrection, je le serai avec eux, je serai le premier à reprendre conscience. Je trouverai alors Moussa. Or ce texte est sans ambiguïté et n'admet aucune interprétation. Ces paroles signifient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à reprendre conscience après avoir été foudroyé, non qu'il sera le premier à être ressuscité après la mort. Tel est d'ailleurs le sens du terme arabe ifaqa, qui signifie reprendre conscience. D'ailleurs, quiconque réfléchit aux paroles, mais je ne sais pas si Moussa aura repris conscience avant moi ou s'il y aura échappé pour avoir été foudroyé avant cela sur le mont Sinaï, n'aura aucun doute à ce sujet. Mais Allah le Très-Haut en est mieux informé que quiconque. ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم ويأذن الله لهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم. Autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disposera le jour de la résurrection du plus sublime étendard et il sera ressuscité avec les musulmans sur un espace qui dominera tous les autres privilèges qu'aucune nation ne partagera avec la nation musulmane. En outre, Allah autorisera son messager et les musulmans à se prosterner sur les lieux du rassemblement à l'exclusion de toute autre nation, comme le rapporte Ibn Majah d'après Jubara Ibn al-Mughallis al-Himmani, d'après Abdul A'la Ibn Abd al-Musawwir, d'après Abu Burda, d'après son père, d'après Abu Musa, d'après son père Abu Musa al-Ash'ari, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah aura rassemblé ses créatures le jour de la résurrection, la nation de Muhammad sera autorisée à se prosterner. Les musulmans se prosterneront alors longuement avant qu'il ne soit dit « Levez vos têtes, car un nombre de nos créatures équivalent au vôtre entrera en enfer à votre place. » Et comme vous le voyez dans les annotations, ce hadith il est jugé faible par l'imam al-Albani. Rahimahullahu ta'ala. Al-Albani a dit « Da'ifun jiddan » très faible. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première, c'est le narrateur, le dénommé Jubara, elle n'est pas digne de foi. Il n'est pas intègre, on ne prend pas de lui le hadith. Et il y a une deuxième raison qu'a cité le Cheikh Abd al-Razzaq, mais il n'y a pas besoin ici de la citer. وَقَدْ صَحَّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّهُمْ أَوَّلُ الْأُمَمِ يُقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَاحِبُ الْحَوْضِ. Juste un point, la première partie est affirmée dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad. Quelle partie ? Celle où il dit celle où Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit il disposera le jour de la résurrection du plus sublime étendard. Cette partie, elle est affirmée par l'imam Ahmad et elle est jugée authentique par l'Albani, rahimahullah. فقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة ومن ذلك أنه صاحب الحوض المورود فقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا لكن نعلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض وأكثرها واردا ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض. Par ailleurs, il est rapporté de sources sûres à travers diverses chaînes de narrateurs, que la première nation à être jugée le jour de la résurrection sera la nation musulmane. Autre privilège accordé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le bassin où iront boire les musulmans le jour de la résurrection. Pareil, on le retrouve dans les livres de Aqidah, dans les chapitres concernant la foi au jour dernier. Le prophète aura un bassin, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que vous lisez Inna a'tainak al-kawthar? On t'a donné al-kawthar. Al-kawthar, c'est un fleuve. C'est un fleuve au paradis destiné et réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De ce fleuve, de l'eau vient se mettre dans un bassin. Et dans ce bassin, les gens viendront boire, les musulmans, ils viendront boire juste avant d'entrer au paradis. Ce bassin, il a été décrit par plusieurs hadiths. Il est dit que il a la distance d'un mois de marche de largeur et d'un mois de marche de longueur, que l'eau qui s'y trouve à boire est plus douce que le miel et plus blanche que le lait, que le nombre de, comment on pourrait dire ça, de tasses ou de récipients pour boire de ce bassin est équivalent au nombre des étoiles dans le ciel, et que les croyants vont boire de ce bassin une seule gorgée après laquelle ils ne connaîtront plus jamais la soif. Ils boiront juste parce qu'ils ont envie de goûter le délice, mais la soif, ce sera fini. Allahumma nas'aluka min fadlik. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde ceci. Tayyib. Autre privilège accordé au prophète Mohammed alayhi salat wa salam, le bassin où iront boire les musulmans le jour de la résurrection. Et si un hadith rapporté notamment par At-Tirmidhi indique que chaque prophète disposera d'un bassin, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le plus immense, celui où le plus d'hommes viendront boire. Autre honneur accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avoir été suscité comme messager à l'endroit le plus noble de la terre, la Mecque, puis avoir émigré vers le lieu qui le suit en noblesse, Al-Madina, selon la majorité des savants de l'islam. Ceci est une particularité aussi, car les prophètes ont tous été envoyés dans des endroits, pour certains des endroits sacrés. Cependant, le prophète Mohammed alayhi salat wa salam a été envoyé dans l'endroit le plus sacré de toute cette terre, l'endroit préféré d'Allah tabaraka wa ta'ala, incontestablement, sans la moindre divergence chez les gens doués de raison. Et donc Mecca, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, ce qui montre que Mecca est meilleur que tout, il dit, si Mecca n'était pas meilleur que tous les endroits, la Mecque n'était pas meilleure que tous les endroits chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aurait pas fait en sorte qu'il soit une obligation à chaque musulman d'aller accomplir le hajj à Mecca. Il dit aussi, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas fait en sorte que le seul endroit où on peut embrasser une pierre, c'est à Mecca, la pierre noire, et on perd des péchés à cet endroit. Le seul endroit où on peut toucher une pierre, c'est à Mecca, al-Rukn al-Yamani, le coin yéménite. Et il a cité beaucoup de mérites de Mecca qui montrent tous les uns les autres le privilège de la Mecque par rapport aux autres contrées. Aussi le fait qu'une prière, il dit aussi le fait qu'une prière est récompensée comme si qu'on avait fait plus de 100 000 prières. Si tu pries 2 raka'a à Mecca, une seule prière à la Mecque, il y a plus de récompenses que 100 000 prières ici. Allahu Akbar. Donc c'est une particularité qu'Allah Azza wa Jalla a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi que juste après la Mecque, il a été envoyé alayhi salatu wassalam à Médine. Et Médine, c'est le deuxième meilleur endroit de la terre après Mecca. Même si certains savants ont dit que le Médina était meilleur que Mecca, Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, après avoir cité énormément de preuves, a dit, en réalité, c'est incontestable. C'est Mecca qui est meilleur. C'est bien Mecca qui est meilleur que Al-Madina. Et d'ailleurs, je me souviens de la parole de Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, à qui on a demandé quel est le meilleur endroit, Mecca ou Al-Madina. Il dit, regardez l'intelligence du savant, il dit, Mecca est meilleur pour vivre et Al-Madina est meilleur pour mourir. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Vous savez ce qu'il a fait? Là, il a à peu près 84 ans. Il sait qu'il va bientôt mourir. Il a déménagé de Mecca aujourd'hui il vit à Médine. Qu'Allah Azzajal le préserve et lui accorde une fin pieuse. Tayyib. وقد حكى ذلك القاضي عياض السبتي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم ونقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم جسده بعد موته أفضل بقاع الأرض وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي أبو الوليد الباجي وابن بطال وغيرهما. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: néanmoins, certains comme Malik ibn Anas et la majorité des tenants de son école affirment que Médine est la plus noble des cités. En outre, Al-Qadri Iyad, c'est un savant du madhab de l'imam Malik rahimahullah, attribue cet avis à l'émir des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, mais Allah en est mieux informé que quiconque. Al-Qadri Iyad affirme que les savants de l'islam sont unanimes pour dire que la terre de la tombe où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est enterré est la meilleure des terres. Avant, Al-Qadri Iyad, naam, Al-Qadhi Abu al-Walid al-Baji ibn Battal, ce sont des autres savants, ils viennent tous de Cordoba, ce qui est devenu Cordoba, Andalousie. Entre autres, on parlait de consensus ijma' des savants à ce sujet. Cet avis repose sur le récit qui suit. وأصل ذلك ما روي أنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع وقيل بمكة وقيل ببيت المقدس فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه ذكره عبد الصمد ابن عساكر في كتابه تحفة الزائر ولم أره بإسناده. نعم. Cet avis repose sur le récit qui suit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, ses compagnons s'opposèrent sur le lieu de son enterrement. Certains proposèrent Al-Baqi', d'autres la Mecque, et d'autres encore Jérusalem. Abu Bakr radiyallahu anhu répondit alors qu'Allah ne pouvait avoir repris son âme qu'à l'endroit qu'il aime le plus au monde. Et ce hadith, il a été jugé faible. Ce hadith, il a été... Ce hadith, il a été jugé faible par certains savants du hadith. Je ne me souviens plus si c'est l'Albani ou pas, rahimahullah ta'ala. On en reparlera si vous me le rappelez au prochain cours, inshallah ta'ala. Et la version qui est connue, c'est que quand le prophète est mort, d'ailleurs on l'a étudié, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont divergé sur l'endroit où l'enterrer. Et c'est là qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a dit qu'Allah azza wa jal prend les prophètes dans la terre où ils aiment être enterrés. Les prophètes aiment enterrer. Et ici, qu'est-ce qu'on dit ? Répondit alors qu'Allah ne pouvait avoir repris son âme qu'à l'endroit qu'il aime le plus au monde. Or, ce qui est voulu, c'est le prophète qui aime cet endroit où il est mort. Ce récit est rapporté par Abd al-Samad ibn Asakir dans son livre intitulé Tuhfat al-Zahir. Ibn Kathir dit justement: mais je ne l'ai trouvé nulle part rapporté à travers une chaîne de narrateurs. Autre particularité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nul ne pouvait hériter de lui après sa mort. Ainsi, Abu Bakr et Abu Huraira rapportent ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam: nul n'hérite de nous, ce que nous laissons est une aumône. Les prophètes, quand ils meurent, ils ne laissent pas d'héritage. On ne doit pas, c'est-à-dire que les enfants des prophètes n'ont pas le droit d'hériter des prophètes. Ils ne laissent pas d'héritage. Ce que les prophètes laissent, ça devient une aumône. Une aumône dont va tirer profit ceux qui ont été définis par les règles. Mais les prophètes laissent quand même quelque chose en héritage. Qu'est-ce que c'est? Al-ilm, le hadith d'Abu Abu Darda, radiallahu an, où le prophète, alayhi sallallahu sallam, dit وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. Les prophètes ne laissent pas en héritage de dinars et dirhams. C'était l'or et l'argent de l'époque, les deux monnaies. وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. Mais ils ont laissé en héritage la science. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Celui qui prend la science aura pris une grosse part de cet héritage. Mais à part ça, ils ne laissent rien comme objet ou autre, comme bien à hériter. Et on n'hérite pas d'un prophète. Taïb. Al-Bukhari et Muslim rapportent ce hadith d'après Abu Bakr et Abu Huraira. Toutefois, Tirmidhi rapporte un hadith que l'on ne trouve pas dans son jami' à travers une bonne chaîne de narrateurs. D'après Abu Bakr, selon qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous les prophètes, nul n'hérite de nous. Par conséquent, les autres prophètes partageraient cette particularité avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'exclusion des autres hommes. Effectivement, car ici nous sommes dans le chapitre de ce qui lui est propre en dehors des autres messagers. Or ici, cette chose-là, les autres messagers aussi l'avaient. Cette particularité avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'exclusion des autres hommes. Autre particularité que partagent les prophètes avec lui, que partagent les prophètes avec lui. S'il arrivait à ses yeux de se fermer durant son sommeil, son cœur lui ne s'endormait jamais. Quand le prophète dormait sallallahu alayhi wa sallam, il fermait les yeux certes, mais son cœur il était tout le temps éveillé. Son cœur était tout le temps éveillé sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il est rapporté dans le recueil authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alignez-vous dans les rangs, car je vous vois derrière moi. Le prophète alayhi salatu wa sallam faisait les rangs, puis il se mettait à sa place pour diriger la prière, et il voyait derrière lui, Allah lui montrait azza wa jal, derrière lui des rangs qui étaient défaillants, où il y avait des manques. Et il disait alayhi salatu wassalam, tarasu fis sufuf fa inni arakum min wara'i dhahri. Alignez-vous dans les rangs car je vous vois derrière moi. Nombre de savants de l'islam interprétèrent ces paroles selon leur sens apparent. Ils ont dit: nous y croyons, le prophète sallallahu alayhi wasallam se met dans sa place pour prier et il voit derrière lui. On y croit et il voit comme Allah azza wa jalla veut qu'il voit. Mais Allah en est mieux informé que quiconque. Abu Nasr ibn Sabbar, pour sa part, ça c'est le nom d'un savant, explique qu'il regardait derrière lui comme il regardait devant lui, ce qui signifie qu'il était attentif au moindre de leurs mouvements. Par ailleurs, Abu Ya'la al-Mousili rapporte dans son Musnad d'après Anas que le prophète sallallahu alayhi Wassalam a dit: les prophètes sont en vie dans leur tombe où ils prient. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusalloun. Et on s'arrêtera sur ce dernier point. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les prophètes sont en vie dans leur tombe où ils prient. Les prophètes sont en vie dans leur tombe où ils prient. Je vous pose une question très simple. Est-ce que les prophètes sont vivants ou morts? Très simple. Mohammed, les prophètes sont vivants ou morts? Attention, hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils prient. Les prophètes sont vivants ou morts, Amidou? Jibril. Naam. Continue. Isa est vivant. Et les autres sont morts. Je veux quelqu'un qui en est convaincu. Naam. Ils sont tous morts. sauf Isa alayhi salam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit les prophètes sont vivants dans leur tombe, ils prient? Celui qui trouve la réponse, Allahumma barik, masha'Allah. Barakallahu fik, exactement. Il parle de la vie de la tombe, ce qu'on appelle hayatul barzakh. Il y a la vie terrestre, la vie de ce bas monde. Dans cette vie, tous les prophètes sont morts. Corrigez-moi. Sauf Isa alayhi salam. Isa est vivant, il n'est pas mort. Mais tous les autres sont morts. Et les preuves sont très nombreuses dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu es voué à mourir et ils sont voués à mourir. Il dit aussi de façon générale Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme va goûter à la mort. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on trouve comme verset ? Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Azza wa Jalla dit ne crois pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur qui leur donne leur subsistance. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran ? Il n'y a pas de contradiction. Ils sont vivants dans la vie de ce qu'on appelle al-barzakh. Il y a la vie dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Ensuite, il y a la vie intermédiaire entre le bas monde et le jour dernier. Cette vie-là, on l'appelle al-barzakh. Dans cette vie-là, na'am, ils sont vivants. Ils prient, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas croire que le prophète est vivant, comme on le retrouve dans le soufisme, où ils disent que le prophète Mohammed alayhi salat wa salam est venu voir Ahmed Tijani. Il est venu le voir chez lui pour lui apprendre des choses à dire. Alors qu'il n'est pas venu voir Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il n'est pas venu voir Omar, Uthman, Ali. Combien ils ont eu des problèmes dans leur vie, ils avaient besoin de la solution. Il suffisait juste que le prophète vienne pour leur donner. Il ne l'a pas fait. Et il est venu voir un montagnard dans sa grotte. Allah al-Musta'an. Qu'Allah Azza wa Jal guide les musulmans. On s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.